Désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Que tu le deviennes, puisque tu n'es pas née jolie. pas que tu apprennes à perdre, à encaisser tout ce que le sort ne t'a pas donné. Tu le prendras toi-même. Rien ne sera jamais facile. Il y aura des moments maudits. Oui, mais chaque victoire ne sera que la tienne. Et toi seul en sauras le prix.
Goldman, c'est ta chance sur Phare FM, la radio Autrement qui vous accompagne dans la nuit Autrement ce lundi 30 juin. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon réveil et une excellente journée. Votre programme pour la prochaine heure, retrouvé Patrice Martorano dans Pain de vie. Il nous parlera d'être héros malgré nous. Et puis, hommes et femmes, mode d'emploi et plein de musique. Tout de suite, The Young Escape et la chanson Older. À tout à l'heure.
5 heures.
La nuit autrement
avec Mireille.
In a quarter life crisis, to be honest, I hate that I'm like this. I say I'm okay, but I'm lying. I'm lying, yeah. And I never stop trying to look like I've always been thriving. Cause my friends don't.
maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Patrice Martorano.
Il y a quelque temps, j'ai vu des documentaires, il y a même un film, La mémoire de nos pères, qui est sorti par rapport à ça. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, les Américains sont rentrés en guerre, suite à Pearl Harbor, ils sont rentrés en guerre face aux Japonais. Et lorsqu'ils ont voulu aller au Japon, il y avait un lieu stratégique au niveau de la guerre, c'était une petite île. Et sur cette petite île, il y avait une petite montagne, un petit mont, où les Japonais étaient là, et c'était toute une guerre stratégique dans ce lieu-là. C'est le mont Suribachi. Et vraiment, les Américains, les soldats, devaient aller en haut de la montagne pour récupérer cette place forte, vous voyez. Et lorsqu'ils sont arrivés en haut, les quatre personnes qui sont là vont faire naturellement, ils vont vouloir planter le drapeau de la bannière étoilée. Ils vont vouloir marquer le territoire, marquer que voilà, on a réussi à prendre cette place forte, cette place stratégique. Et là, il y avait à ce moment-là, il y avait un photographe qui était là, vidéo qui était là. Et eux, ils savent pas, et ils sont en train de planter le drapeau, et ils sont pris en vidéo à ce moment-là. Et de cette vidéo est sortie une photo. Et ensuite, cette photo est partie retourner en Amérique du Nord. Et lorsque ils l'ont mis en une dans les journaux américains. Et là, d'un seul coup, ça s'est répandu. C'est comme si à ce moment-là, alors que les gens ne donnaient plus pour l'effort de guerre, les soldats ne s'inscrivaient plus. Lorsqu'ils ont vu cette photo, c'est comme ça réveillait le sentiment patriotique. Et vraiment, ça suscitait toutes sortes de choses à l'intérieur de l'âme patriotique des Américains. Et là, les politiciens, ils ont une idée. On va faire revenir les gars, il y en a un qui est mort après, on va faire revenir les trois qui restent, on va les faire revenir, et puis on va rejouer cette scène, on va la rejouer dans des stades aux États-Unis, et puis ensuite, après avoir planté le drapeau, on va écouter leurs témoignages. Et ils ont vraiment fait ça, et avec la notion de susciter un effort de guerre pour l'argent, pour les soldats, et vous savez quoi ? Ça a fonctionné. Vraiment, ça a fonctionné d'un seul coup, c'est reparti. Et là, on les déifiait. On faisait deux de ces trois gars, on faisait deux des hommes incroyables, des hommes parfaits, des héros. Vraiment, juste complètement grandioses et incroyables. Et il y en a deux sur les trois, ça leur plaisait bien. Ils aimaient bien ce sentiment que tout le monde les regarde comme des stars, comme des gens, comme des dieux sur Terre. Mais il y en a un autre, un Indien, un Amérindien, du nom de Ira Hamilton. Ira Hamilton, Ace, et ce jeune Amérindien que vous voyez là, lui, il était dérangé par ça. Il était dérangé sur le fait de pourquoi on me considère comme un héros. Moi, mes amis, j'ai eu de la chance, je suis monté en haut du mont Suribachi, mais moi, j'ai plein d'amis à moi, ils sont morts, et c'est moi qui aurais pu mourir, et un de mes amis être là. Et vraiment, il avait du mal avec toute cette notion, les gens qui le déifiaient, les gens qui le regardaient comme ce super-héros, cet homme parfait. Et il avait vraiment du mal avec ça parce que lui, il connaissait ses parts d'ombre. Lui, il avait un problème avec l'alcool, il avait toutes sortes de problèmes au niveau de son caractère, et il ne supportait pas ça à tel point que suite à ça, il va rentrer dans une profonde dépression, il va se mettre à boire de plus en plus, et malheureusement, alors qu'il était à peine dans la petite trentaine, on va le retrouver mort sur un trottoir aux États-Unis, complètement imbibé d'alcool. Cet homme a eu du mal avec cette notion de pourquoi les gens me regardent comme un héros. Il y a quelque temps en arrière, dans une émission littéraire, il y avait Josiane Savigno et Jean Dormesson qui étaient là, on les interviewait. Et Josiane Savigno, Jean Dormesson, c'est vraiment, elle a été directrice au Monde, lui sur Figaro, il est dans l'Académie française, c'est des gens vraiment brillants. Et Jean Dormesson, vraiment ce gars, si vous l'avez vu dans des interviews, il est juste incroyable. Il a, je sais pas quel âge, il a plus de 80 ans, il arrive sur un plateau, même quand il y a des gens qui ont 20 ans, il les rend vieux. C'est juste, il est tellement frais cet homme, qu'il attire les lumières. Il est juste, il y a un charisme qui sort de lui, c'est incroyable. Et les gens les regardent vraiment comme des gens hors normes, comme des dieux sur cette terre. Ils accaparent la lumière. Et Jean Dormesson, avec Josiane Savigno, on fait cette déclaration. En fait, quand on voit les gens nous regarder comme ça, nous sommes des impostures. Pas dans le sens de ce qu'ils ont fait, c'est une imposture. Mais c'est comme si les gens nous mettent tellement à haut niveau et nous, on se lève avec nous tous les matins, on sait qui on est. Et on a l'impression, quand on voit les gens nous regarder comme ça, on a l'impression d'être des grosses impostures. Comprenez ? Ils avaient du mal avec le regard des gens, de la manière dont les gens les déifiaient. Je me souviens quand j'étais enfant, 7 ans, 8 ans, 9 ans, il y avait quelqu'un qui avait 20 ans de plus que moi, c'était un chanteur et c'était vu comme le héros en France. C'était celui qui osait parler à François Mitterrand directement. Il était le porte-parole de la jeunesse. Vous connaissez ce jeune homme, Daniel Balavoine. Aujourd'hui, il n'est plus. Il est mort dans un accident. Et lorsque Daniel Balavoine était comme ça, porteur de toute la jeunesse, les gens le regardaient comme un héros. Comme il le regardait, puis comme si c'était le nirvana, le top du top. Et lui, qui comme les autres, sait qui il est, il avait du mal avec ça. Et à tel point qu'il en a fait une chanson, et une chanson qui est devenue un classique dans le monde francophone. Quand je monte sur scène, comme on prend le dernier train, même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains et qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien. C'est pourquoi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais crier, je ne suis, non, je vais pas vous chanter, je suis pas Dan Lutten. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, un héros. Je crois que Ira Hamilton, Josiane Savigno, Jean Dormesson, Daniel Balavoine, en fait, c'est pas, je pense, hein, c'est pas la notion de héros qui les gêne. Dans la notion de accomplissement, d'avoir fait des choses, c'est le regard des autres sur ce regard qui les déifie comme s'ils étaient des êtres incroyables, dotés de pouvoirs surnaturels, comme s'ils étaient pas dans le commun des mortels. Je crois vraiment que c'est ça, l'image que les gens peuvent renvoyer. Moi, je me souviens, toute petite expérience à moi. Je me souviens un jour, des moments où je reçois des messages via Facebook, et je me souviens un jour d'une femme qui m'écrit, et qu'elle me dit ceci, elle me dit « Ah, oh, quel homme incroyable vous êtes. Votre femme a vraiment de la chance. » J'ai été voir ma femme, forcément, j'ai dit « Chérie, t'as vu, je te l'avais dit. » Et ma femme, elle m'a dit « Ah, oh, c'est pas elle hein, qui tous les jours a fait face à toi. Hein. » Vous comprenez ? C'est pas elle qui vit avec toi. Il y a cette notion des moments, elle dit « C'est clair en plus. » Il y a cette notion des moments du regard des gens, ce regard, il y a comme un fantasme des moments, et c'est juste marrant. C'est juste marrant. Moi, des moments, je vais quelque part, je vais prêcher dans une église, puis les gens, ils viennent me voir, ah, on lit les pensées du jour, les messages, etc. Puis généralement, souvent, à la fin, ils me disent, mais en fait, vous êtes pas grand, hein. Parce que c'est l'inconscient, c'est le fantasme, on t'imagine beaucoup plus grand. Il y a tout un truc qui est lié à ça. Et je crois que c'est ça, finalement, qui est vraiment dérangeant. Et c'est pour ça que les gens, souvent, ne se sentent pas être comme des héros de l'Éternel et vivent leur vie sans acte de bravoure. Mais j'aimerais vous dire, au-delà du côté fantasme, déification, au-delà de toutes ces choses-là, j'aimerais vous dire, même si parfois la vie n'est pas simple, même quand vous faites des erreurs, même quand on trébuche, j'aimerais vous dire ce matin, vous êtes des héros de l'Éternel. Comprenez-vous ? Et j'ai intitulé le message que j'aimerais vous apporter ce matin, héros malgré vous. Parce que Dieu nous appelle à être des héros malgré nous, malgré nos erreurs, malgré nos incompétences. Et j'aimerais voir un récit biblique qui nous partage cette expérience. La Bible nous dit que le peuple d'Israël, à un moment donné, vivait sous l'oppression d'un autre peuple qui s'appelait le peuple de Madian. Et ils étaient vraiment dans le stress et l'inquiétude parce que le peuple de Madian allait en Israël. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu prend cette image, c'était comme des sauterelles qui dévoraient le champ, littéralement, qui ne laissaient plus aucune récolte. Et le peuple d'Israël était vraiment sous leur joug, vraiment dans la tristesse, dans l'inquiétude et dans le stress le plus élevé. À tel point que la Bible nous dit, ils allaient sur les montagnes, ils creusaient des tranchées pour se cacher et ils faisaient également, c'est un truc de fou parce que la dynamite n'existait même pas à ce moment-là, ils creusaient des cavernes pour se cacher. Comprenez-vous la peur et l'inquiétude du peuple ? Et là, au milieu de toute cette peur, de toute cette inquiétude, la Bible nous dit que le peuple d'Israël va se mettre à crier à Dieu pour avoir un libérateur, pour avoir un héros qui allait les libérer de la main de Madian. Et Dieu va entendre le cri de ce peuple et Dieu va appeler un héros. Et j'aimerais que nous puissions lire le récit ensemble, c'est dans Juges, chapitre 6, 11 à 12. Écoutez ce qu'il est dit. « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Waouh ! Premièrement, parfois nous avons une perception faussée. Une perception faussée de ce qu'est un héros. Juste qu'on comprenne bien l'histoire, parce qu'on peut lire ça sans vraiment mesurer le poids des mots qui sont utilisés. La Bible nous dit qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Gédéon. Et Gédéon est dans un pressoir à Madian, en train de battre le froment. Comprenez ceci, c'est pas normal qu'il soit là. Vous savez pourquoi il est dans un pressoir ? C'est parce qu'il est en train de se cacher. En d'autres termes, normalement, quand tu battais le froment, tu le faisais à l'air libre. Tu le faisais ça au vent pour que le vent puisse enlever les petites enveloppes et que juste les graines puissent retomber. Donc, il n'y a rien de normal de faire ça caché dans un pressoir. Mais savez-vous pourquoi il était caché dans un pressoir ? Il est caché parce qu'il a peur. Il est dans l'inquiétude. Il a peur des Madianites. Il a peur qu'on vienne, qu'on le tue, qu'on prenne littéralement sa récolte. Il est tellement dans le stress, dans l'inquiétude. Il est tellement dans l'angoisse qu'il est en train de se cacher. Certainement, il a les genoux qui se témoignent d'affection. Il a peur. Il est dans un stress total. Et d'un seul coup, je ne sais pas comment l'ange est arrivé. Est-ce qu'il y a eu une grosse lumière, un roulement de tambour? Je ne sais pas. Mais d'un seul coup, il y a un ange qui arrive. Ça doit faire son effet quand même, je pense. L'ange arrive. Et l'ange est là, il regarde Gédéon. Gédéon, certainement, qui devait être... le cœur devait commencer à palpiter. Ça devait être quand même quelque chose d'assez incroyable. Et là, l'ange lui dit, je te salue, vaillant héros. Je crois que le gars, il a dû faire... ah. Il était certainement d'origine ch'ti. Ah, c'est à moi que tu parles. Il a dû se retourner. T'es sûr? C'est à moi que tu parles? Parce que je t'explique l'histoire. Moi, là, je suis en train de me cacher. C'est pas moi le héros. Si un héros va le voir, il y a certainement quelqu'un qui est en train de battre le froment devant tout le monde en disant, moi, j'ai pas peur des Madianites. Peut-être un gars de 2 mètres, 130 kilos de muscle, je sais pas, un casque, une épée, enfin, plein de... Mais c'est pas moi. Moi, je suis un petit gars. Je suis en train de me cacher dans un pressoir. Parce que j'ai peur. Je suis inquiet du mal que l'on peut me faire. J'ai juste peur. Moi, mon seul défi dans la vie, c'est de réussir à récolter quelques graines pour pouvoir nourrir ma famille. Il y a juste ça que je peux faire. Le reste, franchement, non. Moi, je ne suis pas un héros. Vous savez pourquoi souvent on a cette image quand on dit que nous sommes des héros de l'Éternel ou quand Dieu appelle Gédéon vaillant héros? En fait, c'est parce qu'on a une perception faussée de définitions qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu entend. Par exemple, j'étais sur le dictionnaire et j'étais chercher ce que veut dire le mot héros, la définition du mot héros. Écoutez bien, un héros, selon le dictionnaire, c'est un être fabuleux, la plupart du temps d'origine mi-divine, mi-humaine, divinisé après sa mort. Personnage légendaire auquel la tradition attribue des exploits prodigieux. Waouh ! Waouh ! Dans le monde chrétien, en règle générale, tout à l'heure je disais avec humour, souvent nous les chrétiens, on ne va pas utiliser des mots comme ça parce qu'on est fiers de notre humilité. Alors on utilise d'autres mots. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, souvent le mot qui va être utilisé, vous savez ce que c'est? Le mot qui va être utilisé, quand on voit quelqu'un qui est juste incroyable, il a une force, il y a une spiritualité incroyable qui se dégage de lui, on va lui dire, toi là, t'es un vrai saint. C'est ça, il y a quelque chose de toi, il y a une force de piété, il y a une spiritualité, il y a un engagement. Toi là, t'es vraiment un saint. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tradition de l'Église universelle, un saint, c'est quelqu'un de waouh. C'est quelqu'un, généralement, tu peux pas être considéré comme un saint si t'es pas déjà mort, t'as été canonisé, on te considère comme, généralement, t'as dû faire des exploits, des prodiges, des miracles avant. Et puis quand t'as fait tout ça, on dit de toi que tu es le saint un tel ou un tel. Comprenez ceci, c'est que dans la parole de Dieu, un saint, à la base, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi un saint selon la parole de Dieu? Un saint, c'est chacun d'entre vous. Tous ceux qui ont accepté Jésus dans ce lieu, vous êtes des saints. Regardez ce que la Bible dit. Il y a un passage extrêmement clair qui en parle. Tu peux mettre l'autre diapo. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint. Comprenez? On parle des vivants. Tempérant. Moi, je me souviens un jour, j'ai discuté avec une dame, pas ici, mais ailleurs, je discutais avec une dame, et puis je me souviens, elle me partageait, elle venait, ça faisait 2-3 mois qu'elle avait donné sa vie à Jésus, puis elle me partageait un petit peu ses combats, ce qu'elle vivait, puis elle me dit, tu sais, moi, pasteur, je suis pas une sainte, hein. Et je dis, non, je pense pas, si tu as donné ta vie à Jésus, la Bible est claire, tu en es une sainte. Malgré tes erreurs, malgré tes incapacités, malgré tes manquements, la Bible déclare, à partir du moment où tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et donc, tu es mis à part. Saint, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Tu es un saint. Tu es un héros de l'Éternel. Comprenez-vous? Et la plupart des gens, c'est, mais non, pasteur, tu comprends pas, je fais plein d'erreurs dans ma vie. Et puis, moi, mais c'est des erreurs qui m'empêchent d'avancer. C'est des erreurs qui m'empêchent d'aller de l'avant. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant. Si tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît. Est-ce que vous arrivez à lire? Certains, vous avez, le pasteur, franchement, il a eu un côté dyslexique quand il a écrit, là, il a tout mélangé. Au-delà de mon côté dyslexique, est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit? On arrive à lire, hein. Regardez, c'est un vieux truc qui circule sur Internet et qui affirme que l'ordre des lettres dans les mêmes mots, n'a pas d'importance. Ce n'est pas simple de lire des phrases dont toutes les lettres ont été inversées. Et pourtant, les humains y arrivent. Vous savez pourquoi? Les scientifiques disent que, en fait, quand nous ne lisons pas lettre par lettre, mais nous lisons le mot comme un tout. Comprenez-vous? Et notre cerveau arrive à faire le tri. Moi, je crois aussi, au-delà de ce que disent les scientifiques qui est juste, moi, je crois aussi que Dieu nous a dotés de cette capacité que même lorsque nous frappons des erreurs, nous sommes quand même capables d'avancer. Comprenez-vous? Et je crois que quelles que soient les erreurs que tu as pu faire dans ta vie, je crois que quelles que soient les difficultés que tu as eues dans ta vie, le plus beau reste à venir. Le meilleur est devant toi. Comprenez-vous? Et même si c'est dur, même si, pasteur, je suis entouré d'erreurs. Moi-même, j'ai l'impression d'être une erreur. Et j'ai l'impression que ce qui est derrière moi et devant moi, c'est synonyme d'erreur. Dieu t'a donné la capacité de continuer d'avancer. Comprenez-vous? Et je crois vraiment à ça. Alors peut-être vous dites, tu dis ça, pasteur, c'est chouette, là, c'est un truc que t'as trouvé sur Internet, c'est sympa, ça fait son petit effet d'annonce. Mais c'est bien, mais dans la vraie vie, là, ça marche pas ce que t'es en train de dire. Vous savez ce que j'aime dans la Bible? Il y a plein de choses que j'aime dans la Bible, mais il y a une chose que j'aime particulièrement, c'est que la Bible, écoutez bien, ne cache pas les erreurs, les péchés, les trébuchements, les difficultés de ses acteurs. Des grands personnages de la Bible. La Bible aurait pu faire en sorte que tout soit lisse et on présente les héros comme des gens parfaits, comme n'ayant rien à se reprocher, comme des gens juste tip-top. C'est vraiment la quintessence. C'est la quintessence des croyants, des enfants de Dieu. Ils sont juste merveilleux. En fait, ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible le fait pas. La Bible nous parle des bonnes choses, mais elle nous parle aussi des erreurs, des péchés et des difficultés que les grands héros de la Bible ont rencontrés. Juste pour vous montrer, j'en ai noté quelques-unes, c'est vraiment sympa. Noé s'est enivré, c'est quand même. Abraham était trop vieux. Isaac rêvait de jour, c'est un rêveur Isaac. Jacob mentait. Joseph a été maltraité, il a été abusé par sa propre famille. Moïse était un meurtrier, comme David et Paul. Déborah était une juge féminine, à une époque où c'était vraiment les gars qui dominaient tout. Gédéon avait peur, on l'a lu ensemble, il est en train de se cacher le gars, il a peur. Samson avait les cheveux longs. Rahab était une prostituée, elle fait partie de la lignée de Jésus. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David s'enfuit devant son propre fils. Élie était candidat au suicide. Jérémie était dépressif. Ésaïe a prêché nu. D'ailleurs, le 24, on va faire un truc super, on va faire une super annonce. Et je pense que peut-être je vais prêcher nu. Non, je vais vous faire grâce. Il y en a qui disent amen quand même. Jonas s'est enfui loin de Dieu. Naomi était veuve. Job a tout perdu. Il a dû tout recommencer à zéro. Jean-Baptiste mangeait des sauterelles. Quand même, c'est pas mal. Les disciples se sont endormis pendant la prière. Franchement, ils assuraient pas, hein. Marthe se faisait trop de soucis. Marie-Madeleine était possédée par des démons. Le garçon aux 5 pains et 2 poissons était un inconnu. Elle est restée. La Samaritaine avait couché avec plusieurs hommes, Zachée était trop petit, Pierre trop impulsif, Marc a abandonné, Timothée avait un ulcère à l'estomac et Lazare était mort. Donc quand tu penses que Dieu ne peut pas t'utiliser, tu ne peux pas être un héros de l'Éternel, pense aux gens qu'on vient de lire là. Pense à leur vie. Et moi je vous dis, je vous encourage, nous pouvons être, et Dieu nous appelle à être des héros de l'Éternel. C'est pourquoi deuxièmement, allons avec la force du Seigneur. Dieu a mis en toi une force et même si c'est pas la plus grande, la plus puissante, la plus forte à tes yeux, va de l'avant avec ce que Dieu t'a donné. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Josué ne se sent pas à la hauteur. Il ne sent pas la hauteur. Et parfois, quand Dieu nous appelle à être des héros, à accomplir des choses incroyables, à avoir des actes de bravoure, de vivre et de marcher, de lui obéir, parfois on est là et on ne se sent pas à la hauteur. On est comme Josué, on a toute une liste de « pourquoi je ne vais pas y arriver ?» Les 15 raisons de « pourquoi ce n'est pas possible en France ?» et les 18 raisons de « pourquoi je n'ai pas eu l'éducation qu'il fallait et l'argent dans mon portefeuille pour réussir à faire tout ce que tu me demandes ?» J'aimerais vous dire, au-delà de tout ça, il y a la grâce et la puissance de Dieu qui est capable d'agir dans nos vies et de nous amener à vivre une vie bonne, utile et puissante pour la gloire de Dieu. Comprenez-vous ? Il est là, non mais Seigneur, Juste, ok, bon, t'as un ange, je comprends que t'as certaines capacités, mais juste, je te rappelle, au cas où, tu sais, Manassé, ma tribu, c'est la plus petite. Et puis, non seulement ma tribu, c'est la plus petite, mais pas que. Non seulement ma tribu, c'est la plus petite, mais en plus, dans cette tribu qui est la plus petite des familles, je te donne dans le mille, c'est la mienne. Mais c'est pas tout. Dans cette famille qui est la plus petite des familles, dans la plus petite des tribus, le plus petit dans la famille, c'est moi. Franchement, tu t'es trompé. C'est pas possible. Ça peut pas être moi, vaillant héros de l'Éternel. Non, mais tu t'es trompé d'adresse. C'est juste pas possible. Ça peut pas être moi. Est-ce que vous croyez que Dieu se trompe quand il nous appelle à être des héros pour la gloire de son nom? Moi, je ne crois pas. Et je crois que, quelles que soient les choses que tu vis, quelles que soient les tensions, quelles que soient les difficultés, ce qui est important, c'est que Dieu marche à nos côtés et qu'il nous aide à aller de l'avant. C'est tellement simple. Va avec la force que tu as. Peu importe que tu te sentes être une deux chevaux ou une Ferrari, c'est pas ça qui est important. Vous savez, ce qui est important, c'est que Dieu est dans l'affaire. Peut-être tu dis, mais je suis pas le plus grand, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus qualifié pour ces choses-là. J'aimerais te dire, et peut-être c'est même vrai. Comme Gédéon qui se cachait, il avait peur, c'était vrai. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu marche avec nous. C'est que Dieu est à nos côtés. C'est qu'il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Comprenez-vous? Dieu veille. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je garde ton départ et je garde ton arrivée. C'est ça qui est important. C'est pas la grandeur de tes charismes, c'est pas combien tu es grand, tu es beau, tu es intelligent, t'as un QI incroyable. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu marche. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Ceux qui ont cette capacité, c'est faute de vision, faute d'enseignement, le peuple mort. Mais quand j'ai la vision que quand Dieu est avec moi, je suis capable d'accomplir des exploits, c'est là où je marche avec foi, avec conviction. Dans Hébreux chapitre 11, il y a plein de gens qui n'étaient pas peut-être les plus grands, les plus beaux, les plus forts, la galerie des héros de la foi, mais ils avaient cette foi, cette ferme assurance que Dieu était avec eux et ils ont remporté des victoires incroyables. Va simplement, avec la force que tu as, en croyant que Dieu marche à tes côtés. Et alors que tu le crois, tu vas vivre par la grâce de Dieu des choses magnifiques. J'ai demandé à Dan si tu peux revenir s'il te plaît. Regardez ce que Victor Hugo a dit. J'aime tellement cette pensée, cette citation de Victor Hugo. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Comprenez-vous? Je crois, de tout mon cœur, je crois qu'il y a plein de héros qui sont là. Tout à l'heure, je parlais d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui est à l'école et parce que elle a cette conviction, elle a cette force de vivre pour Jésus malgré toutes les pressions qu'il y a. Pour moi, c'est un héros de l'Éternel. C'est une héroïne de l'Éternel. Quand je vois une maman monoparentale se retrouver, c'était le cas de ma maman, à moi, femme, toute seule, dans un foyer, devant éduquer deux enfants, monoparentale, se lève à 6h du matin, parfois avec 38 de fièvre, 39 de fièvre, prendre le bus parce qu'il n'y a pas la voiture à la maison, aller dans une usine pour gagner le SMIG. Je crois que maman, c'est une héroïne de Dieu. Comprenez-vous? Quand on voit des... Vous pouvez applaudir, hein, pour de vrai, si vous applaudissez, applaudissez. Quand on voit des papas qui sont là et qui sont frappés par le chômage avec toutes sortes de difficultés et qui parfois vont trouver des jobs par intérim qui ont rien à voir avec leur formation, mais parce que ils veulent prendre soin de leur épouse, de leurs enfants, ils veulent vraiment pourvoir à tous les besoins et ils peuvent faire parfois des sacrifices incroyables. Je crois que ce sont des héros de l'Éternel. Nos églises sont remplies de héros de l'Éternel. Comme dit Victor Hugo, héros obscurs de l'ombre que personne ne connaît, mais qui, je crois, aux yeux de Dieu, sont des héros parfois aussi grands que des héros qui sont illustres sous les spots. Comprenez-vous? Et moi, je crois que ce lieu est rempli de héros. Vaillants héros. Va avec la force que tu as. Je m'adresse à toutes les mamans, à tous les papas, à tous les jeunes hommes, à toutes les jeunes filles. Être un héros, c'est pas juste « waouh, ça brille » et puis c'est le fantasme du truc, là. C'est des gens qui se lèvent et qui marchent et qui accomplissent leur destinée, ce que Dieu avait prévu dans leur vie. J'aimerais juste finir avec cette vérité emportée. Un héros est une personne ordinaire, donnant le meilleur de lui-même en faisant confiance à Dieu, malgré ses peurs et ses combats. Amen. Quand Gédéon a reçu cette parole de Dieu, vraiment il avait du mal à y croire. À tel point qu'il va demander toutes sortes de signes. Vous lirez le récit tranquillement à la maison. C'est dans le livre des Juges au chapitre 6. Et il va y avoir ce temps où Dieu va l'appeler et il va commencer à dire « Mais non, Seigneur, c'est pas vraiment ça. Tu dois te tromper. » Puis il va demander des signes. Connaissez le passage de la toison, si demain matin quand je me lève, la toison est mouillée, puis l'herbe à côté est sèche, ça vient de toi. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, il a demandé l'inverse. Si la toison est sèche et l'herbe est mouillée, c'est que ça vient de toi. Puis c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il a dû faire face à son destin, de comprendre que c'est Dieu qui est dans l'affaire et c'est Dieu qui nous appelle à aider. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est pour ça que j'aime cette notion, va simplement avec ce que Dieu t'a donné, va simplement avec cette force. Et Dieu a voulu tellement lui faire comprendre que lorsque Gédéon va accepter la mission, au début, il va rassembler plein de gens autour de lui. Ils vont être des centaines et des centaines et des centaines autour de lui. Puis Dieu va lui dire, écoute, il y a un peu trop de monde quand même. Tu vois, mais comment ça, il y a un peu trop de monde? Il me faut ça pour faire la guerre, encore on est moins nombreux. Non. Et Dieu va séparer quasiment tout le monde, il va rester juste une poignée de personnes. Et avec cette poignée de personnes, ils vont faire face aux Madianites et ils vont remporter une victoire éclatante sans même avoir combattu. C'est eux-mêmes qui vont se battre entre eux. Il y a toute une stratégie, vous lirez ça, c'est juste incroyable. Je veux que vous lisiez cette histoire. C'est juste incroyable. Et tout ça pour nous faire réaliser et comprendre que ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire le miracle. Fais ce que Dieu te demande et laisse Dieu t'émerveiller de ce qu'il va faire. Laisse Dieu accomplir le miraculeux dans ta vie. Moi, je crois qu'il y a des héros dans ce lieu. Est-ce que vous le croyez? Je vais vous inviter à vous lever un instant. J'aimerais prier.
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur eglisemomentum.com.
5h moins 20 sur Phare FM, la radio Autrement avec vous dans la nuit Autrement. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon réveil, une excellente journée, un très beau lundi. On est le dernier jour du mois de juin. Je vous propose de poursuivre en musique Sound on Sunday avec la chanson Running with Angels et tout de suite après Vita, un dimanche avec toi. Je suis ravie d'être avec vous encore pendant 20 petites minutes. J'espère que le réveil n'est pas trop dur. Je vous dis à tout à l'heure.
Got the devil below me, 'cause I'm running with angels. Got the devil below me, 'cause I'm running with angels. Got the devil below me, 'cause I'm running with angels. Splits the sea. The ocean's a highway. When you know who splits the sea. The ocean's a highway. When you know who splits the sea. Oh. You know this song.
I'm running with angels. Got the devil below me. Cause I'm running with angels. Cause I'm running with angels.
Un dimanche avec toi sur Phare FM, la radio Autrement qui vous accompagne dans la nuit Autrement. Et on poursuit notre programme, votre prochain rendez-vous hommes et femmes, mode d'emploi. Et puis tout de suite, Stephen Stanley, This Far Down. Merci de rester avec Phare FM. Merci de vous réveiller avec la radio Autrement. Très belle journée à vous.
Life was a straight line. Where to walk along in the scheme of things.
part of me has to die. The world's been bleeding me dry.
Hommes et femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Nous parlons aujourd'hui des besoins chez la femme.
Très vrai ce que tu dis, parce qu'il y a quelques temps, je découvrais finalement le cœur de Guillaume dans des réunions, où tu vois, quand il pouvait exprimer son cœur à l'église, etc. Et je lui disais après, mais je suis ta femme, pourquoi tu ne partages pas ça avec moi? J'ai envie de savoir quand même ce qui se passe dans ton cœur avant qu'il ne soit d'autre.
Être la première.
Et aussi parce que ça emmène une sécurité dans mon cœur de savoir que Guillaume a sa relation avec le Seigneur. Il y a notre relation ensemble quand on prie ensemble, mais il y a lui avec Dieu et moi avec Dieu. Moi, j'ai besoin dans mon cœur de savoir que mon mari, qui est le chef de ma maison, a sa relation avec le Seigneur, que le Seigneur travaille son cœur, travaille sa vie. Mm-hmm. C'est là où je me sens protégée. Maintenant, c'est le cas. Il partage beaucoup plus, ce qui n'est pas naturel chez lui, mais il a compris effectivement
donc
que c'est un besoin.
Là, ça remplit le besoin précisément.
Absolument.
Une autre catégorie chez les femmes, c'est l'affection non sexuelle.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ça?
Une petite caresse, un mot doux, une main sur l'épaule,
il y a beaucoup
un massage
d'hommes.
De pied. Voilà,
beaucoup d'hommes ne savent même pas ce que ça veut dire.
Oui,
est-ce que ça existe au moins, l'affection non sexuelle? Oui, ça existe.
Vraiment, comment tu l'as définie?
C'est vraiment de l'affection. Ça veut dire ça va être du toucher, du contact physique qui ne va pas
automatiquement déboucher sur une relation intime.
Une relation sexuelle.
Absolument.
C'est un très important, doux, juste un geste doux pour ça.
Hyper important.
Et messieurs, c'est une clé parce qu'en fait, l'affection non sexuelle peut, si elle est installée d'une manière régulière et normale, en fait, déboucher des fois du côté du cœur de l'épouse sur une relation sexuelle parce qu'il y a de la tendresse qui est établie d'une manière régulière.
Oui, c'est vrai que quand sinon c'est que sexuel, finalement, tu deviens, j'exagère le trait, mais c'est vrai, tu peux avoir le sentiment à un moment donné juste d'être un objet pour satisfaire un besoin et ne pas avoir finalement cette tendresse, cet amour qui se manifeste par d'autres choses qui sont beaucoup plus essentielles pour nous, qui sont des marques d'affection et d'amour.
Tu vois, c'est ça marche à tous les coups. Affection non sexuelle, c'est extrêmement important pour les femmes.
Absolument.
Tu veux que je donne un exemple avec moi? Donc j'ai un caractère un peu vif, organisateur, un peu commandant des fois. Et comme on avait 5 garçons, il arrivait que le matin, j'étais en mode sergent-major, tout le monde doit faire ça, et Eric, elle me démarrait plus lentement la matinée, ça faisait des grosses tensions entre nous deux. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'en fait, la première chose dont j'ai besoin le matin, c'est que quand je me lève, Eric se lève juste avant moi, quand je me lève, Eric vienne, et avant qu'on dise quoi que ce soit, il me prend dans ses bras, sans rien dire. Quelques minutes, ça change la vie. Mm-hmm. On a affiné ça, c'est lui qui initie, et c'est moi qui relâche, ça dure pas 3 heures, il est pas coincé avec moi 3 heures, mais ça change nos journées en fait.
Ouais.
Comme tu dis, ce sont des petites choses, mais qui améliorent la qualité de la relation et de l'amour qu'on donne l'un à l'autre.
Quand dès le matin, une journée est démarrée sur le mauvais pied, ça va ruiner tout ce que l'on va vivre ensemble. Mm-hmm. Si on connaît ces genres de choses et qu'on peut les mettre en pratique de manière concrète, la journée n'est plus la même, la vie se transforme.
Puis juste pour terminer rapidement chez la femme, d'autres catégories, c'est la sécurité financière, communication.
Du temps seul aussi.
Du temps seul, l'honnêteté, de la transparence, etc.
C'était Hommes et femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Voice in my head, telling me that I can't go forward. I can't go back. So I sit down and pray, but I know I can't change the choices I've made and the baggage I've packed. All these warning signs have played rewind. And darling, I said it's fine, but Jesus, he knows that I'm blind. Voice in the silence, it's blinding. There's one thing love.
is bad, but Jesus, he knows that I'm blind. Voice in the silence. I'm just cynical, right place, wrong time. I felt invincible, but now that I'm trying, now I can see what it's like. Voice in the silence, it's blinding. There's one thing I can't seem to find. Oh, it's the static.
Gavin, Static and Lightning sur Phare FM, la radio autrement qui vous accompagne. On poursuit en musique avec Claudio Capéo, T'en aller. Ne partez pas, ne vous en allez pas. C'est la radio autrement qui est avec vous et vous allez retrouver dans quelques minutes Bonjour chez vous. Et à partir de 5h30, ce sera Innocent dans Cocorico. Pour ma part, je reviens cette nuit à minuit. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon lundi avec Phare FM. À très bientôt.
Il te dit qu'il t'aime, que tu es belle. Il te caresse avec des épines de rose. Il te promet la lune et te promet le miel. Il te dit que c'est ta faute quand il explose. Il te fait du tort, il te fait du mal. Mais l'amour à mort n'a rien de normal. Il sait qu'il a tort, il sait que t'as mal. Mais l'amour à mort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tout est calme avant la tempête. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Mais tu dois t'en aller. Où est passé l'amour, où est passé le charme? Comment faire quand tu es devenu sa chose? Que dire quand l'oreiller est devenu une arme? Quand ta liberté est une porte close? Quand les mots sont forts et les mots sont durs? Quand l'amour à mort devient un coup sûr? Et tout l'or du monde n'est pas une armure? Quand l'amour a tort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tu penses aux promesses qu'il t'a fait. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Et tu dois t'en aller. Se lève et l'horizon est bien dégagé. Il restera des traces, mais tu seras enfin libéré. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller.